RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Claude.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Pas très très bien.
Ça va ?
Ouais.
Claude, on est ensemble pour présenter ton domaine. Donc le domaine Golbiech, Benoît et Claude.
C'est ça.
Donc Benoît en l'honneur du papa, Claude toi-même. Et donc vous êtes situé sur les hauteurs de Rémiche, hein ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux déjà me présenter en fait ce domaine, les différentes terres dont vous disposez ici autour du domaine et quand est-ce qu'a existé ce domaine pour la première fois ?
Le domaine Golbiech en lui-même, il est assez jeune encore. Donc ça fait que 4-5 ans où on travaille vraiment moi et mon père ensemble. Par contre, mon père, il est vigneron depuis une quarantaine d'années. Donc lui, il a aussi fait du vin, il a travaillé la vigne depuis toujours en fait. Et c'est juste, c'était un changement où moi, qui en fait à la base a appris la finance, qui a travaillé en finance, a décidé de revenir au Luxembourg. Ça c'était quand j'avais 28-29 ans, quand j'ai commencé lentement à travailler avec mon père. Et puis on s'est décidé quand même que je vais continuer. Et c'était à ce moment-là où on a construit en fait la cave ici en haut de Rémiche. Mais où on a changé aussi sur le nom de mon domaine Golbiech. Mais en fait, à la base, mon père, de nouveau, il est dans le vin depuis sa jeunesse. Donc ça fait déjà quelques années, ouais.
Alors si ton père est dans le vin depuis sa jeunesse, ça veut dire que toi, tu as toujours connu ce milieu du vin. Comment est-ce que tu as appris ce métier de vigneron ?
J'ai appris déjà, comme tu as dit, je suis né quand même dans un domaine viticole. Donc
oui.
Depuis que j'étais jeune, j'étais toujours avec mon père dans la vigne, je lui ai aidé pendant les vendanges. Par contre, vraiment appris le domaine ou le métier de vigneron, ça se fait encore toujours maintenant. Donc c'est vraiment en travaillant dans le métier où je l'apprends. Bien sûr, je demande beaucoup aussi d'autres vignerons, des potes qui sont vignerons, à m'aider, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vraiment en travaillant que j'apprends.
C'est un métier qui te passionne. On voit, il y a des difficultés hein, tout de même, climatiques souvent. Mais il y a toujours une solution derrière, j'imagine.
L'industrie de vin en tant que telle est un peu en crise, mais ça c'est pas seulement maintenant au Luxembourg, on le voit beaucoup en France aussi, en Allemagne. La demande de vin est en train de diminuer. Par exemple, la production de vin elle est encore trop grande comparée à la demande. Donc on a un problème structurel maintenant dans le vin. C'est juste, il faut, à mon avis, changer un peu le système ou la manière comment on travaille comme société ou comme vigneron. C'est à cause aussi nous, quand j'ai repris le domaine de mon père, on s'est dit dès le début, il faut qu'on change un peu la donne, comment on fait la production de vin et combien d'hectares on produit, combien de vin on produit, parce que la vente en tant que telle, c'est devenu beaucoup plus difficile. Du coup, nous aussi, on s'est un peu, on s'est un peu changé notre business plan. Quand on s'est dit on veut vraiment qu'on reste petit en tant que production de la surface. Donc à cet instant-là, on a 4 hectares et demi. Ça, c'est même pour les standards luxembourgeois assez petits. Par contre, on s'est dit alors si on reste sur des productions petites, il faut qu'on fait que la vente directe. Et bien sûr, les ventes directes aux restaurations, aux clients privés. Par contre, nous aussi, sur notre terrasse, on a créé une terrasse de vin qui est ouverte tout l'été. On fait aussi des événements pendant l'hiver. On va aussi on fait des stands à d'autres événements partout au Luxembourg. Donc l'idée en fait c'était de développer une deuxième société dans la société qui fait la vente de vin en direct. Et pas seulement en bouteille mais vraiment dans le verre. Donc l'idée c'était vraiment de créer quelque chose au sein de la société qui est notre meilleur client entre guillemets à nous-mêmes. Pour qu'on n'a pas la pression pour de nouveau produire plus pour gagner assez d'argent.
C'est une bonne idée finalement, c'est au début de la chaîne et à la fin de la chaîne, c'est comme ça que vous imaginez les choses ?
C'est ça, c'était un peu l'idée de la production des raisins jusqu'à le service dans le verre, qu'on fait tout. Donc c'est vraiment dès le début jusqu'au fin où on essaye d'incorporer tout dans notre société. Et bien sûr, ça change un peu totalement comment on travaille parce que pendant l'été et mes week-ends, je travaille à la terrasse. Donc on a presque un deuxième travaux de gastro service bar qu'on fait avec. Mais par contre, ça change de nouveau, comme j'ai dit, la donne du point de vue comment on peut structurer notre société. Parce qu'avec 4 hectares et demi, normalement, on ne peut pas vivre avec autant d'hectares, même au Luxembourg.
Quels sont les cépages que vous cultivez ici au sein du domaine ?
À nous-mêmes, on a encore les cépages traditionnels qui sont le plus répandus. On a encore du Pinot Gris, du Riesling, l'Oxawa. Par contre, on a aussi commencé maintenant avec quelques cépages du sud, en fait. Je crois qu'on parle beaucoup de changement climatique, ce que, bien sûr, ça nous pose beaucoup de problèmes. D'un autre côté, ça nous donne aussi l'opportunité de cultiver d'autres cépages ici au Luxembourg. On a déjà commencé avec du Merlot, qu'on produit en tant que vin rouge. Et on a aussi déjà cultivé du Syrah, avec lequel on a pu faire des rosés. Donc on est en train de changer un peu les cépages qu'on produit ici au Luxembourg. Mais bien sûr, ça prend un peu de temps. Donc il faut toujours regarder un peu comment la météo, le climat, ça va s'évaluer. Et en fonction de ça, réagir un peu dans la vigne. Sachant que pour changer quelque chose dans la vigne, ça prend 15-20 ans. C'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un jour sur l'autre.
Tu fais partie de ces vignerons qui estiment qu'il faut s'adapter à ce climat, parce qu'il y a la problématique du soleil, bon, qui fait qu'on peut se permettre de produire plus de vin rouge, mais il y a aussi la maladie au niveau de la vigne.
Cette année, c'est une année très 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 difficile pour garder les vignes proprement, tout simplement, parce qu'il fallait traiter beaucoup plus que les années auparavant. Je crois que nous, les vignerons, on est les derniers à faire ça, mais c'était sinon pas possible à cause de la pluie. Mais je pense plutôt le problème qu'on aura un peu sur la Moselle, c'est qu'on est en train de perdre beaucoup de vignerons, surtout des producteurs de grappes, donc pas seulement des vignerons indépendants. Et comme ça, on est en train de perdre aussi beaucoup d'hectares qui sont encore utilisés par des vignerons. Et c'est bien sûr ces espaces-là qui ne sont pas traités, qui ne sont pas nettoyés, ceux-là, ils deviennent un peu des endroits où il y a beaucoup de maladies et qui vont après cela, bien sûr, affecter tous les vignes qui sont à côté. Je crois ça, du point de vue maladie, pour moi, c'est là où je vois le plus de problèmes ici au Luxembourg, tout simplement la perte de beaucoup d'hectares qui vont être cultivés. Et si là, nous, les vignerons, et aussi bien sûr les ministères, on ne réagit pas en fonction de garder ces espaces proprement, on aura des problèmes, de plus en plus de problèmes avec des maladies.
Et quelle serait finalement la solution? Parce qu'il faudrait arracher
il faudrait arracher, oui.
Pour ne plus contaminer les parcelles
sûr,
voisines.
Ouais. Ouais. Le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup aussi de privés qui ont encore des vignes. Et si on connaît les prix d'arrachement des vignes, il y a beaucoup de gens, s'ils ne sont pas forcés à arracher, ils ne vont pas l'arracher. Parce que tout simplement, de dépenser des milliers d'euros pour rien avoir après.
Oui, bien sûr.
On est déjà derrière, on est déjà en discussion aussi avec l'État, qu'il faut avoir des propositions pour qu'on garde notre immeuble à propriété et un côté sain des vignes.
On va pas reprendre les cépages les uns après les autres, mais de manière générale, il y a un élevage, évidemment, qui est prévu dans le cadre de la production de vos vins. C'est un élevage qui a toujours lieu de la même manière, ou alors il y a eu le choix d'aller sur des types d'élevage différents, notamment de la barrique?
La barrique, c'est un des outils qu'on utilise de plus en plus. Ça, de nouveau, à cause un peu du climat qu'on a. Dans le passé, au Luxembourg, on avait beaucoup des vins qui avaient l'alcool 11,5, 12% d'alcool. Donc pour mettre des vins, surtout des vins blancs en barrique avec 6 mois d'alcool, c'est un peu difficile. Donc avec le soleil qu'on a, on a plus de structure dans nos vins, on a des vins plus concentrés. Et bien sûr, alors l'élevage dans les barriques, ça fonctionne mieux. Donc du coup, nous aussi, parce que moi et mon père, on aime bien les vins qui sont élevés en barrique, on est en train de faire de plus en plus de vins en barrique. Sinon, pour la production totale, quand même, le côté le plus grand, c'est le Crémant. Et je pense aussi que c'est le produit partout sur la Moselle luxembourgeoise qui est en train encore de monter. Et c'est vraiment la base un peu de presque tous les vignerons, c'est la production de Crémant.
Vous avez fait le choix de partir sur quel type de Crémant? L'avantage du Crémant par rapport au Champagne, c'est qu'on n'est pas tenu par le nombre de cépages à intégrer. Parfois, ça peut être du monocépage ou c'est 4-5 cépages. Quel est le choix de cuvée que vous faites?
Ça dépend. Dans le blanc, c'est vraiment des cépages différemment. Donc nous-mêmes, dans notre domaine, on a surtout l'Oxawa, le Pinot Blanc, Riesling et Pinot Gris. Le seul monocépage qu'on fait, c'est dans le Crémant Rosé, où on travaille à 100% avec du Pinot Noir. C'est possible qu'on va faire encore des monocépages en Crémant, mais je pense que ça, c'est plutôt une question que je vais me poser dans 4-5 ans. Je travaille plutôt sur le crément aussi, afin qu'on peut-être on va sortir nouveau aussi un crément zéro dosage, donc sans sucre ajouté. Donc d'avoir une alternative dans le crément un peu moins sucré, donc plus sec aussi, quelque chose qu'on peut boire en mangeant ensemble. Donc c'est plutôt sur les dosages, je suis en train de travailler, que sur les cépages en lui-même. Ouais.
On voit qu'il y a un travail sur les dosages là-dessus. Tu viens de me servir une coupe de crément, c'est lequel? C'est le cuvée...
C'est le cuvée Benoît.
C'est le cuvée Benoît. Donc c'est votre crément principal.
C'est ça.
C'est ça. Ce qu'on repère tout de suite, c'est on est sur un crément qui est frais, mais qui est extrêmement fin aussi. En termes de dosage, on se situe comment?
On est normalement là, on est sur 6-7 grammes de sucre, donc on est vraiment même du côté brut, on est dans le côté bas. Nouveau, c'est ce qu'on cherche. En général, je ne veux pas travailler trop avec des sucres, parce qu'à mon avis, si on a bien travaillé avec les vins, si on a bien travaillé dans la vigne, on a assez de structure, on a assez de cœur dans ces vins proprement. Et le sucre va sortir un peu des goûts qu'on veut garder. Même si la clientèle en général, elle cherche de plus en plus des vins doux, sucrés, mais on essaye bien sûr de contrer un peu cet événement. Ouais.
Bah, disons qu'il y a une mode et une tendance au zéro dosage, mais lorsqu'on fait déguster à l'aveugle, bien souvent, les gens préfèrent les produits un peu plus sucrés. C'est ça qui est surprenant.
Ouais.
Hein, ouais, ouais. On va parler également donc des vins tranquilles. Est-ce qu'on peut dire que le cépage emblématique de la Moselle, c'est l'Auxerrois? Ou alors vraiment, on estime aujourd'hui que tous ces cépages qu'on peut retrouver également, soit chez nos voisins alsaciens, soit chez nos voisins allemands, sont devenus des cépages vraiment très aboutis du Luxembourg?
Du point de vue notoriété, je sais, c'est difficile à dire. Par contre, du point de vue consommation, je crois qu'on peut dire que c'est le Pinot Gris maintenant, le vin qui est le plus vendu, consommé. De nouveau, on est sur un vin assez doux, assez facile à boire. Et là, comme on avait déjà parlé, c'est la tendance des consommateurs qui cherchent des vins comme ça. C'est surtout le Pinot Gris qui a monté beaucoup en consommation. L'Auxerrois, il l'avait perdu de plus en plus, mais il est en train de revenir de nouveau un peu. Et le Riesling, c'est un vin beaucoup plus sec. Et que moi aussi, j'essaie de travailler pour avoir vraiment un vin bien sec. Là, bien sûr, on a encore la clientèle pour, mais qui est en train de diminuer.
Ce qui est très intéressant lorsqu'on lit votre carte, et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir, vous avez créé une catégorie qui s'appelle « vin de dessert ». Vous avez compris, en fait, finalement, que chaque vin va avec chaque plat. Ils ont du succès, ces vins de dessert?
Ce n'est pas une grande vente qu'on fait avec ces produits-là. C'est plutôt côté niche. Et c'est plutôt aussi nous pour nous amuser un peu dans la cave. Donc, nous, on a changé un peu. Avant cela, on a fait beaucoup de ventes dans Chardif. Mais on a maintenant allé sur un système vin de paille. Donc, on cueille les grappes normalement, entre guillemets. Et puis, on les fait sécher pendant un mois, deux mois, trois mois avant de les presser. Et pour un vrai vin de paille, là, de toute façon, on doit attendre deux mois, qu'on a vraiment encore juste des rosines à la fin, très, très sucrées.
Et vous les faites sécher dans quel contexte en fait? Dans la cave? Comment ça se passe?
Dans la cave. Dans le passé, c'était sur la paille,
d'où
vient le nom. Maintenant, en fait, on a des containers en plastique avec des trous dedans pour avoir une meilleure aération. Et bien sûr, on peut les mettre un sur l'autre, donc on gagne beaucoup la place. Par contre, ça reste encore un travail de fou en fait, parce que tous les semaines, presque tous les 10 jours, il faut qu'on regarde tous les bacs et sortir vraiment tous les petites grappes qu'on n'aime pas. Et sortir la mauvaise pourriture pour qu'on ait vraiment des grappes qui sont propres et qui sont bien à la fin.
Et donc, à la suite de ça, lorsqu'on a une pourriture dite noble, qu'est-ce qu'on fait?
C'est là, on la garde parce que c'est du sucre à 100%.
Et on presse?
On presse, ouais.
Ok. Et là, on a un nectar qui est complètement ahurissant. D'ailleurs, c'est un vin qu'on sert en petite bouteille, en petit format. Hein. Ces vins de paille, on les déguste au moment de Noël en général avec le foie gras, c'est ça?
Bien sûr, pendant l'hiver, c'est le temps où on vend le plus, des choses comme ça. Mais même pendant toute l'année, il y a des gens qui aiment bien le boire. Je crois que c'est comme en France, on a le Sauternes, des choses comme ça. Ça se boit quand même à l'année. Mais bien sûr, souvent, c'est utilisé pour des anniversaires, pour des repas de famille, des choses comme ça. Parce que voilà, bien sûr, c'est le meilleur en mangeant bien du dessert ou avec l'apéro, avec du saumon, des choses comme ça. Donc il faut quand même avoir quelque chose qui va bien ensemble. Voilà.
Allez, on va passer au vin rouge un petit peu. On en discutait juste avant l'interview. On disait qu'on était tous les deux passionnés de vin du Languedoc, ouais, en France, qui est un vin méconnu en fait, mais où on arrive à faire vraiment quelque chose de qualité. Toi aujourd'hui au Luxembourg, tu es capable de produire des vins rouges de quel type, sachant que maintenant on a ce soleil supplémentaire. Comment est-ce que tu les travailles?
Dans le passé, c'était surtout le pinot noir qui était cultivé au Luxembourg. Nous-mêmes, on a aussi du pinot noir, mais nous, on l'utilise presque exclusivement pour notre crémant ou pour du rosé. Et puis nous, moi et mon père, on s'est décidé un peu de tester des cépages du sud, comme du Syrah, comme du Merlot, parce qu'on veut avoir un peu des vins rouges qui sont un peu plus costauds, parce que nous, on aime bien ça aussi. Donc du coup, on a cultivé ça maintenant. Le Merlot, on a déjà en production. Et le Merlot, ça commence à être répandu de plus en plus au Luxembourg. Je crois qu'on est une demi-douzaine de vignerons maintenant au Luxembourg qui la cultivent. Et le Syrah, bah, c'est nouveau, une chose à nous, on a commencé il y a 3-4 ans, où on voit quand même, on doit encore apprendre beaucoup le cépage avec le temps qu'on a, mais c'est des cépages qui vont fonctionner avec le climat qu'on a maintenant au Luxembourg. Ouais.
Allez, on va choisir deux vins. Tu vas me parler vraiment de tes deux vins préférés. Alors, je sais, c'est toi qui produis les vins. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont préférés. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un ou deux que tu aimerais mettre à l'honneur, faire découvrir aux auditeurs de ce podcast de la Route du Vin de Luxembourg?
Comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime bien des vins secs encore.
Ouais,
donc,
ouais.
Pour moi, le Riesling qu'on produit à Stadtpriedmuss, c'est un de mes vins préférés, surtout quand je mange. Quand je mange, je veux avoir un vin qui a une belle acidité, qui a une grande longueur. Et c'est vraiment le Riesling, voilà, de Stadtpriedmuss que moi, en tant que vin blanc tranquille, je préfère le plus. Et où j'essaye aussi, quand je fais des dégustations avec des clients, quand j'ai des nouveaux gens qui viennent au domaine, surtout les jeunes, de les pousser un peu aussi à boire encore des vins secs. Parce que de nouveau, ils ont tous l'habitude de boire du crémant, du pinot gris, des rosés. Mais ils ont de moins en moins, en fait, sont moins en moins poussés à boire en fait des vins secs ou un peu plus difficiles entre guillemets à boire. Et c'est à cause que j'essaie toujours de pousser les gens pour aller encore sur le Riesling, qui est pour moi quand même encore le cépage où Luxembourg, on arrive à faire les meilleurs vins. Avec le climat qu'on a, avec les terres qu'on a, c'est vraiment pour moi le Riesling, on arrive encore à avoir la meilleure qualité en général. Et puis le deuxième, ou aussi en vin blanc, où j'essaye de pousser beaucoup, c'est un pinot blanc qu'on vinifie en barrique aussi. Le pinot blanc, c'est un vin très fruité, qu'on arrive à vraiment faire des belles choses. Et là aussi, en barrique, ça, c'est une bonne symbiose entre la barrique et le vin, qui est un vin très, très intéressant. De nouveau, comme j'ai dit, comme on a plus d'été, plus de soleil, plus de chaleur, on a plus d'alcool dans nos vins, donc les vins blancs qu'on arrive à faire maintenant en barrique, ça monte de plus en plus en qualité.
Pour terminer, je vois qu'il y a des produits de distillerie. Oui. Ça aussi, c'est une manière de s'amuser à la cave.
Ça, c'était un peu où c'est le dernier, entre guillemets, les derniers projets à mon père, parce que lui, il aime bien le cognac.
Et c'est ce qui permet aussi de clôturer le repas. On parlait d'approche gastronomique tout à l'heure. Il y a une vraie démarche de proposer une offre qui
en fait
qui va
en du... cognac, on boit du cognac comme apéro, donc ça marche maintenant pour les deux côtés même.
Exactement.
Mais l'idée c'est vraiment venu parce que mon père il est un grand fan du cognac, et le cognac c'est rien d'autre que du vin distillé, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais bien sûr nous on n'a pas le droit de l'appeler cognac parce que c'est une appellation
locale. Oui,
locale. Ouais. Par contre maintenant on travaille de plus en plus en distillant nos vins, on fait aussi des mares maintenant. Donc tous les ans, on regarde un peu les années, qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée est d'agrandir ce côté aussi, même si ça reste une niche au sein du domaine, bien sûr. Mais on essaye voilà, de retravailler nos vins, même des mares, qu'on arrive à faire des jolis trucs. Ouais.
Tu fais partie de cette nouvelle génération de jeunes vignerons au Luxembourg et on en a besoin. Pour conclure, on va rappeler que tous ces bons vins, on peut les déguster donc au niveau de la terrasse, c'est ça?
C'est ça. En fait, de mai jusqu'au début octobre, on est toujours ouvert tous les week-ends. Par contre, maintenant en hiver, on a aussi des événements. Et bien sûr, les gens ils peuvent toujours passer en semaine pour les dégustations. Là, il n'y a absolument pas de souci.
Et il y a un site internet aussi, j'imagine,
sûr,
pour
ouais.
découvrir les vins et peut-être commander. Est-ce qu'on peut rappeler le contact?
Oui, c'est benoitclaude.lu. Mais là, vous trouvez toutes les informations dessus. Il y a aussi un petit shop dessus et nous, on est encore très, très à l'ancienne. Si on a encore quelque chose, on peut toujours nous appeler. Et notre numéro de téléphone, il est assez facile à trouver partout.
À l'ancienne, l'avantage, c'est que ça fonctionne tout le temps.
C'est ça.
Merci beaucoup. C'est une très belle découverte qu'on a fait aujourd'hui avec des choix très audacieux. Le fait de se positionner voilà, sur des cépages qui sortent un petit peu des sentiers battus, hein, qui sont un petit peu différents. Pour conclure vraiment cette interview, est-ce qu'il y a des envies tu te projettes dans 5 ans, 10 ans? Comment est-ce que tu imagines ton domaine d'ici une décennie?
Ça, c'est une question difficile. Non, je crois qu'on a bien commencé. Bah, notre domaine, ça fait que 5 ans. Tout le côté de la terrasse, des événements qu'on fait, la production, elle est assez bien située maintenant. Bah, là, maintenant, c'est vraiment un peu sur la perfection de, tout, de toute la production. Trouver encore du bon personnel. Voilà, une bonne équipe qui travaille bien ensemble. Et en général, je crois là où j'essaye de pousser peut-être encore plus, ce sera pour la Moselle en entière, que vraiment qu'il y a des jeunes vignerons qui continuent. Parce que si on perd de plus en plus de vignerons, on va tous souffrir. Donc c'est plutôt le côté où on essaye de garder la Moselle comme elle est là maintenant, du point de vue autant de vignerons qui travaillent dans le vin, et pour garder un peu ces gens-là dans le vin.
Merci beaucoup Claude Cox, à très bientôt.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.